Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, SOS Violence Conjugale 42, organisée à la Maison de l'Emploi de Saint-Étienne, une soirée conférence sous le titre « L'enfance à l'épreuve des violences conjugales ». Radio Ondaine vous invite à écouter l'intervention d'Emmanuel Bonneville-Baruchel, docteur en psychopathologie et psychologie clinique.
Je remercie vivement l'association SOS Violence Conjugale de m'avoir invité à vous parler de ce sujet ce soir. Donc voilà, je vais vous proposer une conférence un peu du point de vue des recherches scientifiques sur le sujet, national, international, et également du point de vue clinique. Alors, pour commencer, rappeler que la violence dans le couple a longtemps été considérée comme une affaire ne concernant que les seuls adultes. Mais des études internationales ont cependant prouvé qu'elle avait également de graves conséquences sur le développement physique et psychologique de l'enfant témoin. C'est depuis les années 2000 qu'en Europe francophone, en tout cas, la situation des enfants face aux violences dans le couple émerge comme une problématique importante. Pourtant, depuis les années 70, des chercheurs ont mené des études mettant en évidence les effets négatifs de l'exposition à la violence dans le couple sur le développement de l'enfant. Ces enfants présentent un risque plus élevé de souffrance émotionnelle, de difficultés comportementales, de repli sur soi et de retrait des interactions sociales, une anxiété face à la séparation, des agressions envers soi-même et autrui. Par ailleurs, les troubles anxio-dépressifs et post-traumatiques sont présents chez plus de la moitié des enfants concernés. Alors pour commencer, et afin de peut-être mieux nous représenter la situation contemporaine en France, voici quelques chiffres. Chiffres qui sont publiés sur le site de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, qu'on appelle aussi ONPE, et que je vous recommande vivement. Alors, comme vous pouvez le voir, on note que en 2021, 14,09% des filles et 9,8% des garçons de plus de 18 ans interrogés dans le cadre de l'enquête Genèse déclarent avoir été témoins avant l'âge de 15 ans d'un climat de violence entre les parents. En 2022, 21 646 mineurs auraient été concernés par des situations de violence conjugale, d'après les données administratives issues des appels au 3919. En 2023, 9 décès d'enfants sont enregistrés par les forces de l'ordre dans le cadre de violences conjugales. Et 114 enfants sont devenus orphelins consécutivement à une situation de mort violente au sein du couple. À présent, quelques données issues de la recherche scientifique publiée. Alors, à nouveau un rapport d'abord de 2018 de l'ONPE qui définit, je trouve c'est intéressant d'avoir une définition un peu précise, définit une scène conjugale comme violente pour l'enfant lorsque celui-ci n'a le pouvoir ni de l'arrêter, ni de s'y soustraire physiquement ou psychologiquement. Nicole Guédonnet, dans l'article « Violence conjugale et attachement des jeunes enfants, une revue de littérature » publiée en 2013 dans la revue Perspectives Psy, indique que la violence conjugale met en jeu la sécurité de l'attachement de l'enfant. Elle lui fait peur, elle est source de stress et donc augmente son besoin d'attachement. C'est un véritable tsunami pour la sécurité, car les parents ne sont plus une base de sécurité pour leur enfant, tandis que leur comportement est une source de stress majeur. Je reviendrai sur cette problématique d'attachement dans un instant. En 2021, dans son ouvrage « L'enfant face aux violences dans le couple », publié chez Duno, Karen Sadlier, une des expertes françaises de cette clinique, d'ailleurs ce que je vous présente s'appuie beaucoup sur ses travaux de recherche et ses préconisations, écrivait que les agressions conjugales physiques, sexuelles, verbales, psychologiques et économiques crée un climat de vie marqué au quotidien par l'insécurité et l'instabilité. Au cœur d'enjeux familiaux, mais aussi souvent sociaux et judiciaires, l'enfant se trouve, dès son plus jeune âge, menacé dans son développement. D'après les recherches de Lieberman et Lewandowski, publiées en 2006, les enfants de moins de 6 ans qui ont été témoins de violences conjugales ont plus de risques de présenter des troubles psychopathologiques, que ce soit sous forme de symptômes internalisés, c'est-à-dire anxiété, dépression, automutilation, pensée suicidaire, ou de symptômes externalisés, c'est-à-dire agressivité, destructivité, violence pathologique, réactivité émotionnelle négative, voire paranoïa. Être témoin d'une menace sur le bien-être physique de sa mère est le plus puissant prédicteur de la sévérité de la symptomatologie post-traumatique des enfants de moins de 6 ans qui sont traumatisés. Je développerai là aussi tout à l'heure, à partir de la présentation de quelques résultats issus de mes propres recherches cliniques auprès de ces enfants. Dans sa méta-analyse en psychologie du développement, portant sur 118 études expérimentales publiées sur l'adaptation psychosociale des enfants exposés à la violence conjugale, Kitzmann confirme dès 2003 qu'une large majorité d'entre eux ont une moins bonne adaptation psychosociale. Fait notable, ces enfants ont autant de difficultés que les enfants du groupe de comparaison qui, eux, ont été victimes directement de violences, qu'ils aient par ailleurs assisté ou non à des violences conjugales. Ainsi, Kitzmann souligne que les experts du développement considèrent actuellement l'exposition à la violence conjugale comme une forme de maltraitance psychologique, même si cette violence ne s'exerce pas directement sur les enfants. Une recherche internationale, publiée en 2010 par Berman et Perkins, met en évidence que les effets nocifs de l'exposition aux violences conjugales sur l'enfant sont particulièrement liés à l'âge de celui-ci et au niveau de développement de ses capacités cognitives et de sa maturité psycho-affective. En clair, plus l'enfant est jeune, moins il dispose de stratégies cognitives et psychologiques pour comprendre le conflit et d'outils psychiques pour se protéger et faire face au stress et aux émotions. Donc, plus l'enfant est jeune et immature dans son développement, plus l'impact risque d'être fort et durable. Ces facteurs sont d'autant plus importants que la violence conjugale est souvent plus marquée en début de relation dans les familles avec enfants. Alors nous allons voir à présent les effets de la violence dans le couple chez l'enfant au fil des âges et du temps. Le premier temps à considérer, c'est la grossesse. D'après Muriel Salmona, psychiatre psychothérapeute, fondatrice et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, de nombreuses études montrent que si la grossesse peut, chez certaines femmes subissant des violences conjugales, être une période d'accalmie, elle peut au contraire être un facteur déclenchant pour 40% des femmes enceintes qui ont été maltraitées par leur partenaire, ou un facteur aggravant si les violences conjugales préexistaient à la grossesse. Avec une violence qui s'aggrave pour près des 2/3 des femmes et avec 4 fois plus de femmes signalant de très mauvais traitements. Coups, étranglement, menaces avec armes, agressions sexuelles, par rapport aux violences conjugales en général. Ces violences qui s'exercent sur une femme en période de vulnérabilité vont avoir de graves conséquences sur la santé physique et psychique de la mère, bien sûr, mais aussi sur celle de l'enfant à venir et sur l'intégrité du lien mère-enfant après la naissance. Et ce, d'autant plus que dans la presque totalité des cas, on l'estime à 90%, les violences continuent dans les mois qui suivent la naissance. Dans un nombre significatif de cas, les violences physiques se déclenchent lors du deuxième trimestre de la grossesse. C'est donc dans la transition de la conjugalité à la parentalité que les premiers coups ont souvent lieu. Les femmes enceintes qui subissent ces violences de la part de leur partenaire décrivent toutes que ce dernier, au moment des violences, devient méconnaissable, comme un monstre, qu'il n'est plus lui-même, que plus rien ne peut ni l'arrêter, ni le raisonner. Toutes ont été sidérées, terrorisées par cette violence inouïe, inexplicable, qui s'abattait sur elles, souvent sur leur ventre, sur leurs organes génitaux, attaquant de façon précise leur maternité. Car c'est bien la mère et l'enfant à venir qui sont visés par cette rage destructrice. L'homme violent semble ne pas supporter que sa compagne soit enceinte, que cette grossesse soit non désirée par lui ou, paradoxalement, qu'elle soit désirée. Cette situation, en effet, semble générer chez lui une très grande angoisse. Voici un cas présenté par Hélène Romano dans son ouvrage publié en 2017, « Femme enceinte, victime de violences conjugales ». Il s'agit du récit de l'une des femmes qu'elle a accompagnée. J'avertis que c'est très violent. Après notre mariage, comme nous n'arrivions pas à avoir d'enfants, il se moquait de moi en disant que de toute façon, comme j'avais été violée, enfant, c'était dans ma tête et que j'avais un blocage psychologique. Sauf que l'on a découvert qu'il était stérile, ou plus précisément, hypofertile. Là, il a alterné des périodes où il était très déprimé, menaçant de se suicider et essayant même un jour de nous tuer en voiture, à des moments de violence physique extrême. Je me disais qu'il était malheureux, qu'une fois devenu père, tout allait s'apaiser. Mais ça a été de pire en pire. Le couple finit par engager un protocole de procréation médicalement assistée, avec une toute nouvelle technique permettant aux hommes hypofertiles de devenir pères. Deux embryons sont implantés et la grossesse se déroule sans problème gynécologique jusqu'au cinquième mois. J'avais vu l'obstétricien pour l'échographie du cinquième mois et les deux bébés allaient très bien. Deux jours plus tard, alors que j'avais fait dans la maison un bricolage sans demander l'autorisation à Wilfried, il est devenu foudrage en rentrant de son travail, hurlant sur moi, me lançant les outils. Depuis le début de ma grossesse, il n'arrêtait pas de dire que cette grossesse de toute façon n'irait pas à son terme. Il me bousculait régulièrement, en me disant aussitôt que je devrais faire attention à mon équilibre. Il continuait de m'agresser sexuellement plusieurs fois par jour, mais ce soir-là, il a été encore plus loin, en me bloquant contre le mur. Il m'a craché au visage en me hurlant que jamais cette grossesse n'irait à terme, et il m'a donné un coup de poing dans le ventre. Deux jours plus tard, à l'échographie, un des bébés était mort. Wilfried jubilait, certain que l'autre bébé ne tiendrait pas. Mais il a tenu, envers et malgré tout l'enfer des derniers mois de grossesse. Quand l'obstétricien constate la mort du premier fœtus, il ne pose aucune question à Marie, c'est le nom choisi pour cette dame, sur une chute éventuelle, un choc accidentel. Ne s'interroge pas sur les multiples ecchymoses qu'elle a sur le corps. Le seul conseil qui lui est donné est de rentrer chez elle, d'attendre et d'espérer que le second bébé, placé très bas dans la cavité utérine, tienne et qu'il n'y ait pas de fausse couche. Aucune hospitalisation ne lui est proposée. Aucun soignant ne s'alerte de son état physique. Épuisement, faible prise de poids, de son anxiété et de l'absence surprenante du père aux différents examens du suivi. Je ne pouvais pas pleurer pour ce bébé, car je devais survivre. Je passais mes jours et mes nuits à parler à mon bébé, à le supplier de tenir, à lui dire que je serais toujours là pour la protéger. Et puis, personne ne voulait entendre parler de ma douleur d'avoir perdu ce jumeau, ni les médecins, ni mes proches, et encore moins Wilfried, qui se réjouissait en disant que cette grossesse n'aurait jamais dû avoir lieu et que l'autre, de toute façon, mourrait aussi. De toutes les violences que j'ai pu subir, celle-ci, c'était la pire. Mais c'est celle qui a été le plus déniée par tous autour de moi, même les professionnels que j'ai pu rencontrer. Sa petite fille survivra et elle naîtra, mais avec un mois d'avance. La violence psychologique, verbale ou physique lors de la grossesse, on l'a compris, provoque un état de stress chez la mère. Stress qui affectera à son tour le fœtus. La profusion des hormones de stress maternel intra-utérin affecte son poids. Le risque de fausse couche augmente, ainsi que celui d'un poids de naissance faible. En 2024, François Farge, gynécologue, obstétricien et échographiste à l'hôpital des Diaconesses à Paris, et Nicole, son épouse, psychanalyste, publient un article concernant leurs recherches sur les mouvements généraux du fœtus. Ils indiquent avoir observé des réactions très claires chez les fœtus lorsque leur mère éprouve un stress intense. Accélération extrême du rythme cardiaque, raidissement des membres, mouvement précipité de la cage thoracique, comme un allaitement, ce qui est très surprenant parce que, bien sûr, les fœtus ne respirent pas. Ils rapportent également avoir noté un ralentissement de la croissance staturopondérale des fœtus si les épisodes de stress intense se multiplient sur une longue durée chez les mères. Deuxième temps, à présent, après la naissance. Au fur et à mesure des mois qui passent, le bébé s'imprègne du contexte de danger qui l'entoure. Selon les études recensées là encore par Karen Sadlier, des bébés de moins de 12 mois exposés à la violence dans le couple montrent davantage de détresse que leur père du même âge. La recherche d'une équipe internationale et pluridisciplinaire, dirigée en 2017 par Lyons Ruth, suggère des effets neurologiques suite à l'exposition à la violence, liés à une stimulation répétée de l'hypothalamus chez l'enfant confronté à la violence familiale. L'hypothalamus contribue aux réponses de crainte ou d'agressivité face au danger. L'hypothalamus des enfants exposés à la violence conjugale étant surstimulé, ce phénomène crée une hypersensitivité, comme si l'hypothalamus était constamment en éveil. Des réponses de fuite, peur, crainte ou de combat, agressivité, tension, sont déclenchées en présence de signaux de menace faibles ou modérés. Ainsi, les enfants exposés à la violence dans le couple ont des réponses affectives et comportementales exagérées face aux menaces de moindre intensité. Par conséquent, ces enfants peuvent sembler difficiles à gérer pour les adultes extérieurs, en crèche ou à l'école, en raison de leur inhibition ou de leur agressivité. Par ailleurs, une recherche publiée en 2000 par Kaplan et Pruette démontre que les conflits violents ont des effets directs très négatifs sur les enfants quand ils en sont témoins et augmentent le risque d'insécuriser leurs attachements, en particulier de les désorganiser. L'exposition chronique à de violents conflits conjugaux est effrayante pour le jeune enfant et d'autant plus désorganisante qu'il ne peut approcher facilement son parent pour être rassuré et consolé. Les auteurs soulignent que l'impact des violences conjugales auxquelles assiste un enfant est à considérer sous l'angle du traumatisme. L'enfant est pris dans un conflit motivationnel entre son système d'attachement qui le pousse à chercher la proximité de l'adulte qui peut le réconforter et celui de l'alarme-vigilance qui le pousse à fuir la situation qui est source d'effroi. L'enfant est donc en proie à un paradoxe comportemental et se retrouve dans un état de peur sans solution. Solomon et Georges, en 99, soulignent l'importance prioritaire, pourtant pour l'enfant, d'être aidé, protégé et consolé par ceux qui prennent soin de lui, pour pouvoir réguler les émotions de peur qui peuvent l'étreindre. C'est l'un des besoins fondamentaux de l'enfant. Si sa mère, violentée, est paralysée par sa propre panique ou par son impuissance, elle peut devenir imperméable aux indices ou aux demandes de soins de son enfant. Elle peut être amenée à abdiquer dans son rôle de protectrice et de consolatrice. Sans le vouloir, elle risque d'abandonner l'enfant dans des moments de crainte et de détresse extrême. Or, mes propres recherches cliniques, depuis 2006, ont montré que chaque fois qu'un petit enfant est laissé seul avec ses propres ressources immatures pour gérer un stress intense, une peur, une émotion débordante, cette expérience s'inscrit en lui comme un traumatisme psychique. Troisième temps en grandissant. Dès 1988, John Bowlby notait que des enfants ayant eu des expériences traumatiques de l'attachement dans la petite enfance évoluent vers un registre de comportement qu'il appelle « contrôlant avec inversion du rôle parental ». L'enfant, même tout petit, se conduit alors vis-à-vis du parent comme s'il était lui-même un parent. En fait, l'enfant va essayer, grâce au développement progressif de ses capacités, de prendre le contrôle sur cette situation insupportable. L'inversion de rôle entraîne un problème dans l'autonomie et dans l'acquisition de l'autorégulation émotionnelle, qui est la tâche développementale principale des 3-6 ans. Les enfants ayant une inversion du rôle parental sont des enfants qui développent très vite un sens très sophistiqué des sentiments et des besoins de l'autre, de l'adulte en particulier. En revanche, ils n'ont pas développé un sentiment complémentaire du soi. À la place, ces enfants vont plutôt expérimenter l'impossibilité à se représenter ses propres états et ses propres besoins, ainsi qu'une incapacité à réguler ses émotions. Entre 3 et 6 ans, l'enfant fait donc l'apprentissage de l'identification et de la régulation des émotions. Pourtant, dans la famille caractérisée par la violence dans le couple, les enfants n'apprennent pas à identifier leurs états émotionnels. Souvent, les émotions ne sont pas verbalisées dans ces familles. Certaines émotions sont niées ou dévalorisées, telles que la peur ou la tristesse. D'autres, telles que la frustration ou la colère, sont exprimées dans des passages à l'acte très violents. Sans modèle parental d'identification et de verbalisation des émotions, ces enfants éprouvent de grandes difficultés à comprendre ce qu'ils ressentent et ne peuvent donc pas le verbaliser. Sans pouvoir dire avec certitude s'il est triste, s'il a peur, s'il est en colère, il ne reste à l'enfant que le comportement pour exprimer ses émotions. Comportement qui risque, on l'a vu, d'être disproportionné par rapport au contexte. Entre 7 et 10 ans, le lien avec autrui commence à devenir de plus en plus important. Avoir des copains, un meilleur ami, trouver sa place dans le groupe sont des processus normatifs qui se verront affectés par la violence dans le couple à laquelle l'enfant est exposé. La loi du silence qui entoure toute dynamique de violence familiale et les sentiments de honte et de culpabilité intériorisés dans les années précédentes peuvent faire en sorte que l'enfant se coupe des autres. Ceci l'empêche d'accéder autant à la construction d'une relation adaptée avec ses pairs qu'au soutien social. Des auteurs notent que pour les enfants de cet âge, la complexification des concepts du bien et du mal se traduira par une accentuation des concepts de l'intentionnalité de la violence et de son bien fondé. Autrement dit, l'enfant risque d'évaluer lui-même selon les critères forgés uniquement à partir de l'expérience familiale, si oui ou non la violence et le recours à la violence est justifié. À l'âge de l'école primaire, les processus de rationalisation et d'intellectualisation prennent une place importante dans le développement de l'enfant. Pour les enfants exposés à la violence dans le couple, le fait de trouver du sens aux agressions et de les comprendre devient prioritaire. Ainsi, les rationalisations qui excusent le comportement de l'auteur, ainsi que ceux qui désignent la victime comme responsable ou coupable du déclenchement de la violence, peuvent alors être très facilement intériorisés et devenir référence. Dans mes recherches en psychopathologie de l'enfant, qui portaient particulièrement sur les traumatismes précoces, publiées depuis 2008, j'ai indiqué comment certains de ces enfants qui avaient été confrontés à des parents violents et imprévisibles, auxquels ils ne pouvaient ni se soustraire ni s'opposer, n'avaient pas eu d'autre choix que d'effectuer une identification brute à cet objet source de terreur. Une sorte d'incorporation globale du parent violent, qui devient ainsi un objet interne. L'une des conséquences pathologiques est que cet objet interne peut surgir en lui après coup sans qu'il ait le moindre contrôle et prendre les commandes de son fonctionnement. Voici un exemple issu de ma pratique clinique. Arthur, 7 ans, enfant témoin de violences conjugales jusqu'à l'âge de 5 ans, fait un jeu avec son éducatrice, où il met en scène un personnage qu'il nomme « Monstre vert ». Au bout d'un moment, il commence à être très agité et demande à son éducatrice de ranger le personnage dans une boîte et de placer celle-ci sur la plus haute étagère de la pièce. Il lui confie « Tu sais, monstre vert, ce n'est pas vraiment un jeu ». Il lui raconte alors que Monstre Vert est un monstre très violent, très puissant et méchant qui surveille Arthur toute la journée. Il dit que personne ne peut le voir car il se cache dans sa tête. Ainsi, Monstre Vert le voit faire des bêtises et il rit quand Arthur fait une crise ou s'en prend violemment à sa famille d'accueil. Arthur dit que lorsqu'il fait une crise, il devient comme Monstre Vert. Il raconte ce qui se passe en lui. Parfois, il voit des images, des scènes dans sa tête où son père battait et insultait sa mère. D'abord, il a peur. Il a alors envie que son assistante familiale s'occupe de lui, le rassure. Puis, il est en colère lorsqu'elle refuse parce qu'elle est occupée, par exemple. Il a l'impression que son mari et son fils sont contents et se moquent de lui. Alors, il les insulte. Puis, il a peur qu'il lui fasse du mal, qu'il le frappe. Il dit qu'il se sent tout petit. Comme cela lui fait encore plus peur, il fait le contraire. Il devient fort. Il oublie qu'il a peur. Il frappe le père d'accueil. Il crie « Je suis pas un bébé et je vais tous vous tuer ». Là, il voit que ce sont eux qui ont peur et Monstre Vert dans sa tête rit. D'abord, Arthur est content. Mais ensuite, il a peur qu'il se venge. Il essaie d'être gentil, mais il remarque que personne ne veut lui parler et qu'il doit rester tout seul, avec Monstre Vert. Lorsqu'Arthur se trouve seul dans sa chambre, le soir, il a aussi très peur, car il sait que Monstre Vert attend qu'il éteigne la lumière pour venir le punir. Remarquons que les violences conjugales dans la famille d'Arthur se produisaient surtout le soir, après le coucher des enfants, à un moment où le père pensait que les enfants dormaient, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Arthur lutte contre le sommeil pour surveiller la venue de Monstre Vert. Il cherche tous les prétextes pour ne pas rester seul. Si les membres de sa famille d'accueil sont là, Monstre Vert ne se montre pas, ou bien il s'enfuit lorsque son assistante familiale vient dans sa chambre pour lui lire une histoire ou le câliner. Monstre Vert attend qu'Arthur soit seul et sans défense pour venir le battre et le persécuter. Parfois, Arthur pense que Monstre Vert va le tuer. À ce moment de ce récit, il évoque une crise de violence qu'il a faite dans sa famille d'accueil. Il dit que cela lui fait encore penser à son père, lorsqu'il criait et que son visage se déformait. Qu'il criait « Dégage, je vais te tuer !» Arthur pense que son père s'adressait à lui, mais il n'est pas sûr. Il pense qu'il s'adressait peut-être à sa mère, mais c'est tout mélangé dans son souvenir. Il ne veut pas poser la question à sa mère lors d'une visite, car il se souvient que la seule fois où il a parlé de sa petite enfance à sa mère, celle-ci s'est mise à pleurer. Il ne veut pas la faire pleurer, car il a peur qu'elle ne revienne plus le voir. Un autre jour, lors d'un récit à deux avec son éducatrice, Arthur raconte l'histoire d'une sorcière qui jette des mauvais sorts à tous ceux qui passent près de chez elle. Son éducatrice lui demande pourquoi cette sorcière jette des sorts comme cela. Arthur explique. La sorcière ne peut pas se contrôler. Ses parents étaient des sorciers méchants, alors elle est forcée d'être comme eux. Elle semble donc victime de la fatalité d'une transmission générationnelle, immuable. Arthur ajoute « C'est comme moi. Quand j'étais bébé, j'entendais mon père crier des choses méchantes. Je sursautais, ça criait dans ma tête et je les gardais toujours. Et toujours, ça fait peur. » On notera que le phénomène et l'état de peur perdurent malgré la protection dont Arthur fait l'objet et alors qu'il n'a plus de contact avec son père depuis plus de 2 ans au moment de ces scènes et de ce récit. L'adolescence. Karen Sadlier, experte déjà citée à plusieurs reprises, indique que la préadolescence et l'adolescence sont des moments propices pour une intensification de la violence dans le couple. Des études, là encore, nationales, internationales, ont démontré que les phases d'autonomisation du jeune sont des moments favorisant un accroissement de la violence. Les phases d'autonomisation sont également des périodes d'opposition normales chez les adolescents. Mais pour l'auteur des violences, la différenciation des envies et des besoins de l'adolescent est très difficile à supporter. Son sentiment de frustration augmente et son sentiment de perdre le contrôle sur autrui s'intensifie. La réponse de l'auteur des violences dans le couple à ces moments normatifs d'autonomisation chez son enfant est plutôt celle de la violence. Une violence qui se joue contre le partenaire, à nouveau, et éventuellement aussi contre l'adolescent. Les adolescents présentent alors de nombreuses difficultés en raison de la violence dans le couple, dont des problèmes scolaires liés aux souffrances post-traumatiques et des problèmes dépressifs. Ces jeunes présentent des comportements à risque. En effet, quand le danger a été banalisé, minimisé dans leur famille ou bien par des professionnels, l'adolescent n'a plus de repères quant à la sécurité et à l'insécurité. Il peut également, je l'ai déjà évoqué chez l'enfant plus jeune, souffrir d'un réseau de soutien affectif en dehors de sa famille, très pauvre. Par ailleurs, on l'a vu, lors de son enfance, le jeune peut avoir intégré que la violence était le moyen privilégié pour gérer la frustration et les différences d'opinion. Il peut donc être violent avec lui-même ou autrui, surtout quand il est frustré ou lorsqu'il se sent menacé, ce qui est très fréquent. En 2020, Maurice Berger, pédopsychiatre, rapporte que 69% des jeunes admis au centre éducatif renforcé en alternative à l'incarcération pour faits de violence extrême, avec lesquels ils travaillent, ont été exposés à des scènes de violence conjugale pendant au moins les 2 premières années de leur vie, scènes qui se sont imprimées dans une mémoire traumatique susceptible de se réactiver à tout moment, comme je l'ai décrit pour Arthur. Dernière partie, une fois qu'on a vu tout ça. Quels seraient les besoins spécifiques de l'enfant face à la violence dans le couple ? La violence dans le couple crée des besoins particuliers chez l'enfant et l'adolescent. Pourtant, les parents risquent d'être en difficulté pour répondre à ces besoins en raison de cette même violence. Pour certaines victimes, le fait d'être en sécurité leur permet de reprendre ou de déployer des compétences parentales suffisantes pour faire face aux besoins de leurs enfants. Mais une aide et un soutien pluridisciplinaire, c'est-à-dire social, éducatif, psychothérapeutique, sont cependant très importants, et ce, sur une longue durée. Parmi les éléments dont les enfants ont impérativement besoin, on peut citer, tout d'abord, rompre la loi du silence. Pouvoir parler de la violence est un pas important dans la reconnaissance des scènes traumatiques et dans la connotation de ces événements comme interdits par la société. La loi du silence qui opère dans des familles confrontées à diverses formes de maltraitance empêche ce processus. De plus, le parent victime et l'enfant co-victime peuvent se trouver dans des postures co-protectrices, évitant d'évoquer les violences ensemble, pensant ainsi protéger l'autre par le silence. En ce qui concerne l'auteur, oui, parce qu'il y a aussi un mot pour les auteurs, je trouve aussi très important, comme la, madame l'a rappelé, de s'intéresser aussi aux auteurs. Donc, en ce qui concerne l'auteur, le déni et la minimisation peuvent l'empêcher de parler de la violence. Il peut aussi avoir un manque de compétences de communication pour aborder un thème si douloureux. Si l'auteur parle de la violence avec l'enfant, il risque néanmoins d'inverser la responsabilité, en rendant la victime responsable, donc. Pour ces raisons, l'auteur a absolument besoin d'être activement accompagné pour aborder la violence avec son enfant. Pourtant, lors des entretiens éducatifs, visites en point rencontre ou visites médiatisées, on observe souvent que des professionnels peuvent, au nom de la neutralité bienveillante, éviter de parler de la violence dans le couple. De cette façon, et sans le savoir, le professionnel se trouve en collusion avec les dynamiques de déni, de clivage et de minimisation qui entourent la violence. Le professionnel risque alors d'amplifier la loi du silence. Il est essentiel que le professionnel aille à l'encontre de ces dynamiques et verbalise aussi bien la violence que l'interdit. Deuxième besoin, amplifier la sécurité réelle et émotionnelle. Pour ces enfants, le sentiment d'insécurité est un point majeur. Comment construire des représentations psychiques et sociales adaptées quand ils ont un parent tout-puissant et imprévisible et une autre parente impuissante, maltraitée et désignée comme fautive? La victime peut participer à un sentiment de sécurité en veillant à la stabilité des réponses aux enfants, à la création des soutiens et des rituels et en partageant des informations concernant des changements tels que l'hébergement, l'école, etc. avec eux, entendu-t-il. De plus, il est important pour la victime de distinguer avec les enfants quelles informations pourraient participer à augmenter la dangerosité de nouveaux passages à l'acte suite aux questions de l'agresseur. Plusieurs experts internationaux soulignent la tendance en effet des agresseurs à questionner l'enfant lors des contacts afin d'obtenir des informations concernant la vie autonome de la victime. Les enfants se trouvent alors dans un conflit de protection. Soit ils doivent répondre aux questions du parent agresseur et mettre le parent victime, et eux-mêmes par conséquent, en danger réel, soit ils refusent de répondre aux questions et risquent des violences verbales, un chantage affectif ou des violences physiques de la part de l'auteur. Mais l'agresseur lui-même peut participer au sentiment de sécurité en respectant les consignes des professionnels et de la justice quant à la distance avec la victime. Le fait de participer à un suivi spécialisé pour les auteurs de violences dans le couple est également un élément rassurant pour les enfants. Si l'auteur est capable de parler de la violence et d'en prendre la responsabilité, ceci aura un impact positif dans la reconstruction psychique de ses enfants. Par ailleurs, le soutien des professionnels à l'absence de contact entre victime et auteur participe à la stabilité de l'enfant. L'organisation de passations sécurisées, ainsi qu'une parentalité en parallèle éventuellement, aideront l'enfant à développer un sentiment de sécurité en mettant des frontières de protection à l'intérieur de la famille. Maintenant, identifier et parler de ses émotions. Face à la violence dans le couple, comme face aux autres formes de maltraitance d'ailleurs, l'enfant est souvent carencé dans sa capacité, on l'a vu, d'identifier et de réguler ses émotions. Pouvoir parler avec ses parents de ses états affectifs permet de les extérioriser et diminue l'intensité des symptômes anxio-dépressifs et traumatiques. Ici, le parent victime peut se trouver en difficulté pour parler des émotions liées à la violence, et cela nécessite donc le soutien des professionnels. Dernier besoin, sécuriser un suivi psychothérapeutique. Étant donné la souffrance psychique des enfants face à la violence dans le couple, il est opportun de considérer des suivis psychothérapeutiques par des professionnels spécialisés, non uniquement en psychotraumatologie, mais quand même aussi formés à la spécificité des violences dans le couple et à leurs effets sur les enfants. Il faut néanmoins prendre en compte qu'au nom de l'autorité parentale conjointe, l'auteur peut s'opposer à la mise en place du suivi et des soins psychiques. Face à cette possibilité, il est utile de considérer toute option qui permet à l'enfant d'accéder aux soins ou à un accompagnement spécifique. Par exemple, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la victime peut demander une autorité parentale exclusive temporaire, la permettant d'initier un suivi pour l'enfant. En conclusion, la violence dans le couple a des effets sur le développement, on l'a vu, neurobiologique, psychologique, affectif et social de l'enfant. Des souffrances psychosomatiques et psychotraumatiques sont fréquentes. Des difficultés dans l'identification et la régulation des émotions sont typiques. Isolés par le processus de la violence intrafamiliale, ces enfants ont particulièrement besoin de ressources relationnelles externes pour élaborer leurs souffrances. La stabilisation de l'enfant dans un cadre de vie sécurisant et non violent est primordiale. De préférence, ce cadre de vie inclut le parent victime. Protéger la victime de violence dans le couple met en place les conditions, dans un grand nombre de cas, pour pouvoir protéger l'enfant, mais ne peut suffire à soigner les effets de l'exposition à la violence conjugale. Pardonnez-moi d'insister, mais il est essentiel d'y associer des soins pluridisciplinaires, un accompagnement éducatif et psychothérapeutique pour soigner les traumatismes, mais aussi relancer tous les processus développementaux arrêtés ou tordus par l'expérience traumatique de la violence dans le couple. Et j'ajouterai pour conclure qu'il n'est jamais trop tard. Je vous remercie.